Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et dorénavant, Pulps est aussi ouvert le lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur le 193e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 1er mai 2014 et oui, nous, on travaille même les jours fériés. Au programme de ce 193e Comics Weekly, nous aurons bien sûr du Marvel avec la grosse sortie de la semaine, voire peut-être même du mois. C'est le Amazing Spider-Man numéro 1 qui fait son grand retour. Nous parlerons aussi d'Uncanny Avengers pour son premier annual, Silver Surfer, Hulk ou encore All New X-Men. La partie indé reviendra sur plein de nouvelles séries qui démarrent, que ce soit chez Image, IDW, Dynamite ou encore Vertigo. Et enfin, la partie d'essai avec la suite de Batman Eternal et l'annual numéro 3 de The Flash. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler de tous ces nouveaux comics, Flo.
Salut à tous.
Mister René Bunny.
Bonjour à toutes et tous.
Et Marty.
Hello les amis.
Tu reviens du futur?
Oui, tout à fait. Et je vous le dis, les voitures volantes, c'est pas pour demain.
D'accord. Bon, en même temps, si ça avait été pour le demain, on l'aurait su, je pense.
Oui.
Voilà, comment commencer avec une vanne vraiment, vraiment minable.
Donc, j'allais dire, au début, tu disais, oui, on travaille même les jours fériés, mais on travaille même parfois les nuits fériées. Voilà.
Et oui, aussi. Voilà, c'est bien parce que comme ça, je me sens moins seul pour la vanne pourrie. D'ailleurs, on n'est pas tous les deux à avoir des vannes pourries, puisqu'il y en a faites par Dan Slott avec le Amazing Spider-Man numéro 1, n'est-ce pas, Mr. René Bunny?
De la bonne vanne bien pourrie. Amazing Spider-Man numéro 1, donc l'événement, le relaunch de la franchise. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il y a un Amazing Spider-Man numéro 1, souvenez-vous.
C'est le volume 3.
C'est le volume 3, ouais, effectivement. Donc Dan Slott est au scénario, Humberto Ramos est au dessin, en tout cas de l'histoire principale. Alors on a deux petites pages qui sont peut-être les deux pages les plus intéressantes en introduction. Donc voilà, avant même les pages de crédit, qui sont en fait, qui nous montrent l'expérience durant laquelle Peter Parker a été piqué par une araignée, et qui nous montrent que quelqu'un d'autre apparemment a été piqué. Voilà, donc bon, idée classique qu'on a déjà vue dans des What If, mais qui maintenant va devenir canon, et on va découvrir cette personne dans quelques temps.
Lors de Original Sin notamment, ça a été bien teasé dans toutes les conventions actuelles.
Ouais. Original Sin, peut-être le moment où ça redeviendra intéressant. En tout cas, donc après, pour le reste de cet épisode, donc sur 18 pages de l'histoire principale, nous avons surtout Peter Parker de retour dans le costume, plus ou moins de retour dans le costume, puisque justement ce costume, il va le perdre face à Easter Bunny, cette espèce de nana déguisée en lapin qui vole des œufs de Fabergé dans cet épisode. Alors bon, elle a des hommes de main assez marrants, il y a notamment le héros de cette série dont j'ai oublié le nom, c'est très bien, avec un hippopotame en guise de perso principal, mais je sais plus comment ça s'appelle.
C'est Hip Flask, non?
Peut-être.
Ouais, tu penses à Elephant Man, j'imagine.
Elephant Man, voilà, Elephant Man. Ouais,
Hip Flask était un spin-off de Elephant Man.
Voilà, tout à fait. Bah, il a le même design, il a la même gueule. En même temps, un hippopotame, ça ressemble un petit peu à un autre hippopotame. Voilà. C'était la review utile. Sur 8 pages quand même, on a une espèce de gag bien lourd à la Slott où Spider-Man se retrouve à moitié à poil. Alors il y a tout plein de gags autour de ça. Ce qui est un peu plus intéressant dans cet épisode, c'est que Peter Parker fait face aux conséquences de tout ce qu'a fait Octopus. Enfin, de tout ce qu'a fait Octopus, pas tout, mais une partie. Donc il reprend les entreprises Parker, ou plutôt Harker d'ailleurs, vous allez voir pourquoi. Il comprend pas au fait un petit peu tout ce que Octopus a essayé de faire puisque il est roboticien pour un mot qui n'existe pas. Il a pas la mémoire d'Octopus. Il sait pas trop ce qu'il a fait pendant cette année ou ces 6 mois écoulés, je sais plus combien de temps c'était.
Un an à peu près.
Un an, voilà. C'est un an réel en comique, mais il y a que 13 ans qui sont passés depuis le début de toute l'histoire. Bref, voilà, Marvel et la continuité. Mais en tout cas, bon, ça c'est
Au moins, ils ont le
assez
mérite d'en
intéressant.
avoir une. Oh!
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Et de pas avoir des excuses dans des mondes parallèles et des planètes secondaires. Enfin bref. Ne nous égarons pas. Voilà. Donc alors, Peter Parker est un petit peu décontenancé par tout ça. Il sait pas trop comment gérer les choses. On voit Jameson aussi de son côté qui a subi les retombées de tout ce qui s'est passé récemment et qui bah, est obligé de démissionner et qui va peut-être prendre une décision ou peut-être pas. Enfin voilà. J'en dis pas plus. Ça fait sourire. Et surtout, l'épisode se termine sur un cliff qui est, bah, qui m'a un peu étonné parce que ça se termine vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je pensais qu'on allait aller un peu plus loin. Et to be continued, je me suis dit, ah, d'accord, ok, bon, bah, c'est tout. J'ai trouvé ça assez faiblard pour un numéro 1, en fait, pour l'histoire principale d'un renouveau. C'est-à-dire que, mis à part les deux premières pages où on t'annonce un truc quand même assez gros, peut pas dire que ça chamboule énormément de choses quoi. On retourne vers le Spider-Man très 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 classique et puis en plus écrit à la slot, c'est-à-dire un peu fun mais c'est pas mon humour hein. Honnêtement, ça plaira plus aux jeunes lecteurs peut-être, mais moi ça m'ennuie quoi déjà. Je vais vous laisser vous exprimer
Bah,
sur
vas-y
cette
Flo,
première
si tu
partie.
veux commencer.
Ben en fait, t'as bien mis les mots sur ce que je pense. En fait, c'est assez sympa, mais très classique. Et ça n'a rien d'un numéro 1 historique, un truc vraiment
Oui, ouais.
incroyable qu'on attendrait depuis des années, un truc de fou et tout. Voilà, on replace bien les éléments de l'intrigue. Donc, j'ai à peu près tout compris. Moi qui n'ai pas lu Superior Spider-Man, j'ai à peu près tout compris, à part l'histoire de J. Jonah Jameson. Que bon, voilà, je sais pas d'où vient sa décision.
Pareil, moi c'est pareil,
C'est le
hein,
seul truc, mais bon, c'est le seul truc
Alors, c'est très...
que j'ai pas raccroché. Mais
Pour la faire courte,
sinon,
il est accusé d'avoir détruit toute une partie de la ville parce que les robots, en fait, qu'il avait créés pour affronter Spider-Man, ont été détournés par Norman Osborn et du coup, ça a été le bordel et il est
Ah oui,
accusé de
d'accord.
ça, quoi.
Bon, c'est le seul élément que j'avais pas trop compris, mais sinon le reste, c'est vrai que c'est bien expliqué, ça remet bien les choses en place, donc c'est efficace, c'est rigolo. C'est vrai que c'est marrant, faut avouer que ça marche bien avec les dessins de Ramos en plus, c'est dans le ton. Voilà, mais c'est très classique. J'ai pas été ébloui, voilà, par ce numéro 1. Et
Ce
il y a
qu'il y a, c'est... Pardon, excuse-moi, Flo,
Non, non,
t'avais
mais
pas
il n'y
fini.
a pas effectivement de. Il y a quelques plot points voilà, qui sont lancés, pas mal, mais bizarrement, effectivement, le cliffhanger n'exploite pas vraiment ce plot point et exploite plutôt un truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc j'étais un peu déçu de la fin, quand même.
Bah, ce qu'il y a, c'est que, bon, on ne parle pour le moment que de l'histoire principale, mais pour le côté anniversaire du numéro 1, il y a toutes les histoires secondaires qui sont aussi très intéressantes. Moi, ce que j'ai aimé dans ce côté humour, bon, déjà, c'est du classique, comme vous l'avez dit, mais moi, c'est ce que je veux. Je veux du classique, je veux pas un espèce d'octopus qui devient Spider-Man, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé et j'aime pas ça. Donc, je suis très content de retrouver Peter Parker. Et surtout, l'humour, il y a quand même une excuse qui est donnée par Slott. Alors, elle a la valeur qu'elle a, mais voilà, au moins, on sait, et tout le monde sait, que Peter Parker est de retour dans le costume de Spider-Man. Le vrai Peter Parker. C'est ce que le public fait en voyant Peter Parker qui fait des blagues. C'est ce que les gens qui connaissent Peter Parker se rendent compte dès qu'ils la voient agir, avec sa fameuse chance à la Parker, c'est-à-dire la pire poisse du monde. C'est-à-dire le mec est quand même la théorie de Murphy le plus vivant possible. Donc ça permet, voilà, ce petit plot qui, certes, est un peu ridicule, Spider-Man à poil, ouais, waouh, on a, c'est pas drôle, mais ça permet d'expliquer facilement peut-être, mais en tout cas d'expliquer un peu pourquoi les gens vont comprendre très vite que Peter est enfin de retour.
On a vu plus spectaculaire quoi pour un numéro 1, c'était surtout ça qui m'a
Ouais, mais comme ça, ils
dit au
s'embarrassent
moment.
pas d'explications, soit qui tiendront pas la route, soit qui prendront 2, 3 ou 4 pages à chaque fois qu'il va rencontrer un nouveau personnage. On gagne du temps.
Certes, enfin voilà. C'était pas tellement ce que j'avais envie de lire, mais bon. On va partir sur les backups du coup. Déjà une première backup sur Electro. Alors Electro revient surtout bah, parce que Actu Ciné oblige, hein, voilà.
Ce numéro 1, de toute façon, c'est pas. Je pense que si Slott avait eu les mains libres, il aurait pas forcément fait un nouveau numéro 1. C'était aussi un passage imposé dû au fait que le film est sorti. Bah,
moi, j'aurais surtout préféré un numéro 1 avec finalement peu de backup, très peu de backup et une histoire principale plus longue. Parce que 18 pages pour l'histoire principale pour le numéro 1, ça m'a surpris. Je m'attendais à une trentaine de pages limite et avec quelques petits backups, peut-être pas autant. Parce que franchement, tous ne sont pas utiles. Voilà. Mais donc, on a un backup par Dan Slott et Christos Gage avec Javier Rodriguez au dessin, qui nous annonce le retour d'Electro. Il n'y a pas vraiment de trucs extraordinaires dedans.
Chose que l'on voit aussi passer très vite dans l'histoire principale et qui nous est là un petit peu plus détaillée.
Ouais.
Un moyen de faire d'Electro celui que l'on voit dans le film.
Oui, ouais. Voilà. Mais justement, franchement, ça m'a pas intéressé tellement, je dois dire. Je ne suis pas pressé de lire ce retour. Je sais même pas d'ailleurs si je le lirai.
C'est toujours une très mauvaise idée. Toujours. J'ai pas trouvé une seule fois une exception qui confirme cette règle de transformer un personnage de comics préexistant en la version de lui du film.
Ouais.
Trouvez-moi un contre-exemple, hein, par pitié, si vous en avez un. Je suis preneur, mais pour le moment, je ne trouve aucun exemple valable là de ça.
Non mais tout à fait. Et donc après, deuxième backup un peu plus intéressant, Dan Slott et Christos Gage toujours, mais avec Giuseppe Camuncoli au dessin. Déjà j'aime beaucoup ce que fait Camuncoli récemment. Et voilà, ça annonce le retour de Black Cat. Alors Black Cat qu'on a vu dans Superior Spider-Man, qui avait été arrêté hein, par Doc Ock sans pitié, puisqu'il avait pas de lien. Les liens que pouvait avoir Peter Parker avant avec Black Cat n'avaient plus cours. Elle s'est fait prendre, enfin elle s'est fait
très bon moyen de montrer comment frapper des femmes.
Exactement.
C'est une vanne, hein.
Oui, mais justement, bah ça montre bien les excès de Doc Ock et voilà la différence quoi.
Oh, bah écoute, en parité, hein. Parité.
Exactement. Et donc elle arrive à sortir de prison et elle compte bien se venger. Alors c'est un peu plus intéressant.
Ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est que tout est lié. On voit l'histoire avec Electro dans l'histoire principale. On a ce backup d'Electro qui nous explique un peu plus. Ouais. Mais l'évasion de Black Cat est grâce à l'intervention d'Electro. Finalement, il a réussi à lier tout ça ensemble. C'est pas une mauvaise idée.
C'est pas une mauvaise idée. En même temps, c'est pas éblouissant non plus. On aurait vu ça il y a quelques années. On n'aurait pas sauté de joie en disant « Oh là là, ils ont réussi à tout lier. C'est une évasion, c'est la même évasion. » Bon, ok,
peut-être,
d'accord.
Peut-être, mais à l'époque d'aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose.
Ouais. Mais faut se contenter de peu, quoi. Sans plus. Ensuite, il y a une histoire que je n'ai pas lue. Alors, parce que la blague...
Juste avant que tu passes pour la suite, Flo, qu'est-ce que t'as pensé de ces deux petites histoires, toi qui connais un peu moins bien le monde de Spider-Man?
Pour Electro, j'ai pas trouvé ça super intéressant non plus. Effectivement, maintenant que tu le dis que c'est lié, oui, c'est vrai que c'est bien foutu, mais j'aurais préféré voir ça dans un seul gros épisode plutôt qu'en backup, en fait.
Ouais.
Que ces petites séquences. Ouais. Tu vois, Black Cat, il y a 5 pages de sur Black Cat, finalement, la seule qui importe, c'est la dernière. Qui te montre le statu quo. Voilà, ces 5 pages de ça, la dernière importe. Donc j'aurais plus apprécié un épisode double, où il y a plus à manger dedans.
Ouais, pareil.
Là au moins, les changements graphiques, certes, sont expliqués par les backups, par le fait que ce sont d'autres protagonistes que l'on suit, mais ça fait moins rupture, quoi.
Ouais, mais en même temps, les changements graphiques sont acceptables dans un épisode anniversaire un peu plus épais, donc ça m'aurait pas dérangé que ce soit mélangé. Je préfère que ce soit mélangé dans un gros épisode plutôt que d'avoir des backups toujours. C'est bon. Après, c'est mon c'est juste ma préférence, quoi. Donc après un épisode de Joey Caramagna et de Chris Heliopoulos au dessin que je n'ai pas lu parce que voilà, ça explique un petit peu les pouvoirs de Spider-Man mais d'une manière un peu comique. Quelqu'un l'a lu ?
Oui, c'est très sympathique.
Okay. Oui, pareil, c'est assez marrant.
Bon, voilà. Moi, j'étais en overdose de blagues. Slot m'avait déjà tué avec sa blague. J'étais trop. Enfin voilà, je rigolais tellement que je pouvais plus en prendre. Ensuite, on a Homecoming Sort of. Je sais même pas pourquoi je dis le titre comme ça en français. Peter Parker, Peter David est au scénario et Will Sliney est au dessin. Et au fait, ça te montre clairement que Spider-Man 2099 est de retour dans l'univers 616. Petite aventure, voilà, du Spider-Man 2099, c'est sympa mais sans plus, quoi. Peter David a pas le temps de...
Tu trouves ça sympa mais sans plus?
Bah de le revoir, quoi. Enfin voilà, c'est sympa de le revoir, mais l'histoire,
c'est
pas de...
un gros prélude à la série quand même, puisque déjà on a l'équipe de la série régulière et on voit déjà qui va être au centre de l'histoire. Clairement, le regard qu'il donne à la fin sur la personne qu'il vient de sauver, il va la suivre. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Oui, mais bon. Enfin, j'attends de voir. Là, c'est vraiment en si peu de pages. Pareil, j'ai pas sauté au plafond. Je me suis pas dit, oh, c'est génial. Vite, je lirai la série, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus.
Moi, j'ai trouvé ça super bien. Les dessins sont hyper propres. Le personnage est bien pris, mais en même temps, c'est Peter David.
Ouais. Les dessins, c'est propre. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effets à l'ordi. Je sais pas. C'est ouais.
Bah surtout dans les arrière-plans, ouais.
Ouais. Donc bon. Je suis pas hyper fan de ce style, mais c'est bien, quoi. Enfin, ça fait le job, quoi.
Flo.
Ouais, c'est très, très sympa, ce petit... c'est peut-être même la preview, c'est peut-être même le début de l'épisode 1, non enfin,
Je pense que non. Hein. Je pense que c'est un prélude et qu'on ne reviendra pas dessus. Enfin, j'espère bien.
Oui, c'est sympa, bien écrit. Après, c'est vrai que j'ai pas du tout d'acquaintance et je connais pas du tout Spider-Man 2099, donc j'aurais du mal à aller voir et comme ça, là, à m'y accrocher, mais c'est vrai que c'est bien foutu, assez rigolo. Non, c'est bien, quoi. C'est vraiment bien.
Et ensuite, on a un petit épisode, enfin, un petit backup de Chris Yost et de David Baldeon au dessin, autour de Kane, donc de Scarlet Spider. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que en fait c'est Peter qui enquête un peu, enfin qui revient un petit peu sur les traces de son frère, donc Kane, et qui apprend, enfin qui voit un petit peu les effets qu'il a eu sur la vie de certaines personnes dans sa série qui s'est arrêtée, Scarlet Spider.
Et, ouais, voilà, méga résumé, mais alors hyper compressé de ce que Kane a fait dans la série Scarlet Spider qui a duré 25 épisodes.
C'est ça. Mais la manière de le raconter était pas stupide et pas inintéressante. On voit que Peter Parker n'a pas oublié que il a quand même un clone qui se balade dans quelque part. Et voilà, donc j'ai trouvé ça sympathique comme façon de faire. Et puis bon, bien sûr, ça t'annonce qu'il fait partie maintenant des New Warriors, série assez sympa. Voilà. Et puis on termine par une petite histoire, alors là, sur un nouveau personnage qui est lié au passé de Peter Parker, vraisemblablement un nouveau super-vilain qui va être introduit prochainement aussi, c'est Dan Slott qui s'y colle, avec des dessins de Ramon Perez. J'ai pas été subjugué non plus par cette introduction, et puis ça fait deux trucs liés vraiment au passé très lointain de Peter Parker qui vont ressurgir maintenant. À moins que ça se passe totalement dans le passé, au fait, ce qui concerne ce personnage, je ne sais pas.
Pour le moment, oui, en tout cas. Faut voir ça comme. En fait, c'est l'introduction de ce qu'on aura dès la semaine prochaine et qui va durer l'équivalent d'un mois. Ouais. Les Amazing Spider-Man 1.1 à 1.5.
Ouais.
Et honnêtement, moi, c'est une idée que je trouvais vraiment à chier quand on en avait parlé dans les comics, dans les Weekly News, pardon.
Ouais.
Et à la lecture de ce premier avant-goût. J'ai envie d'aller voir. Finalement, il a réussi à me donner envie d'aller voir au moins le 1.1.
Au fait, c'est simple. Pour faire court et pour que les gens comprennent, c'est du Untold Tales of Spider-Man, quoi. C'est un épisode qui aurait pu être un Amazing Fantasy 18, 19, enfin voilà.
19, du coup, parce que le 18 avait
19,
été fait.
Exactement, oui.
Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Flo, de ça?
Pas grand chose, pareil, je suis un peu dubitatif, comme Tristan, comme Mister de Midi.
Oh, mais qui est cette étrange personne?
Non, je suis un peu dubitatif. Pareil, ça fait un peu sac de nœuds, toutes ces histoires là, on n'en voit pas le bout. Je sais pas si vous avez remarqué, on n'en voit pas le bout de tous ces backups.
Bah, c'était le dernier. Au moins, ouais, celui-ci, c'était le dernier.
Ouais, ouais, c'était long parce qu'il y avait, quand même pas mal de petits backups. Mais, bref, voilà.
Deux pages d'explications sur l'avenir de la franchise Spider qui sont très intéressantes, je trouve, qui te détaillent bien ce que tu vas avoir dans les prochains mois. Mm-hmm. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Au moins, on sait vers quoi on va. On a au moins une idée. On sait si on a envie d'être du voyage ou pas.
Ouais. Bon. Mais justement, la question, c'est est-ce que vous serez du voyage ? Moi, je reviendrai sans doute au prochain grand event, et pas avant.
Spider-Verse, donc ?
Ouais, Spider-Verse, ouais.
Ah, moi, je suis du voyage, complètement.
D'accord.
Complètement. J'ai vraiment envie d'aller voir la suite. J'ai envie d'aller voir cette confrontation avec Black Cat qu'on aura dès le prochain épisode. Enfin, avec Electro, puis avec Black Cat, dans les deux prochains. On aura le début de cette histoire avec Original Sin dans les Amazing Spider-Man 4 et 5. Et ensuite, on enchaînera sur Spider-Verse au numéro 9.
Mais c'est étrange parce que finalement, t'aimes pas du tout All New X-Men quand tu dis que ça refait des anciennes histoires. Et là, on va quand même vers un petit peu ça, quoi. Slott nous refait des anciennes histoires de Spider-Man.
Oui, mais pas en trifouillant trop la continuité, en tout cas pour le moment, à voir ce qu'il va faire avec ça. Là, je lui laisse le bénéfice du doute. Brian Michael Bendis, je lui laisse aucun bénéfice du doute, étant donné qu'il a pourri la timeline. C'est tout.
Bah là il y a quand même ce gros truc au début, quoi. C'est le gros retcon, quoi. C'est de dire que finalement il y a quelqu'un d'autre qui a été piqué et que comme par hasard ce quelqu'un d'autre arrive au relaunch 13 ans après et s'est jamais manifesté avant. Il va falloir vraiment qu'il trouve une explication balèze. On verra.
C'est pour peut-être... ça que pour le moment je lui laisse le bénéfice du doute.
Ouais, ouais. Flo, du coup.
Honnêtement, je suis partagé entre vous deux. Franchement, je sais pas, je suis vraiment pas fan du perso. Peut-être j'irai voir le 2 plus tard, la suite plus tard, mais pas tout de suite.
Parce que non, mais enfin, le job d'un numéro 1, c'était de te faire intéresser au personnage et peut-être de prendre le train en marche maintenant. Donc finalement, non, quoi.
Non, je suis j'ai pas assez envie de suivre l'histoire de Peter Parker, en fait.
En même temps, ouais, voilà, t'as jamais été fan de Spider-Man non plus.
Non, mais bon, enfin ouais, mais c'est aussi, ça m'est destiné.
Ça peut jouer justement sur ton avis, sur ce que les gens vont penser de ton avis justement, c'est que t'as jamais été un gros fan de Spider-Man, donc voilà.
Non, j'en ai pas lu beaucoup, quoi. J'ai lu
du Slott. Non plus ne sont pas forcément fans, ils se retrancheront peut-être vers ton avis justement. C'est donc, pour ça que c'est intéressant.
Mais sinon, c'est un bon numéro, je trouve. Enfin, c'est bien, c'est bien. À noter que le numéro fait 6$ et qu'il y a également un reprint de Inhuman numéro 1 par Charles Soule et Joe Madd à la fin du numéro.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais tu fais bien
gros,
de le préciser.
Gros numéro. Voilà, voilà.
Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le Amazing Spider-Man 1.1, le mois prochain pour le Amazing Spider-Man 2, et puis en juillet le Spider-Man 2099. Bref, voilà, du Spider-Man, vous allez en manger.
Oh oui.
Ouais.
Donc les notes. Pour moi, c'est un énorme bail.
Moi, ce sera juste un check-it pour se faire une opinion sur ce relaunch qui, moi, m'a pas convaincu.
Ouais, c'est un petit bail. Je suis sûr qu'il y a quand même plein de gens qui connaissent, qui sont dans mon cas, mais qui prendront quand même la suite. Je dois être un des rares à pas vouloir prendre la suite. C'est quand même pas mal.
Non, pas forcément. Il y a aussi l'histoire de il y a tellement de séries bonnes à côté que bah, le portefeuille n'est pas extensible.
Bah
aussi.
Voilà, ça c'est mon cas par exemple. Voilà, exactement.
Ah mais économiquement ça joue énormément. On va passer à Marty maintenant qui va nous faire une première review. Le pauvre qui a été bien sage.
N'a pas dit. Ah pardon, oui quoi.
Ta review c'est le Uncanny Avengers Annual numéro 1.
Oui, tout à fait. Non, on ne s'en fout pas. C'est très intéressant, Monsieur Onebunny. Donc si vous voulez un truc avec un numéro 1 sur la couverture et avec beaucoup de pages et aucune backup interminable, ce numéro est fait pour vous. Alors c'est toujours...
Comment il le vend ?
Oui, bah c'est un peu mon ressentiment. Alors donc c'est toujours écrit par Rick Remender, évidemment, qui pour cette fois-ci a en dessinateur invité le Frenchie Paul Renaud, Cocorico, qui se charge de faire dessin, ancrage, couleur et la couverture variante.
Ah, je croyais qu'il faisait faisait dessin dans l'épisode. Je suis déçu.
Oui, et puis Arthur Adams, lui, est pour la couverture régulière, une très belle couverture d'ailleurs. Alors rapidement, cette histoire, ici, pas de Planète X ou de Kang ou un quelconque point commun avec l'arc en cours dans la série régulière. C'est un récit qu'on a un peu du mal d'ailleurs pour l'instant à placer dans la continuité. On verra ça pour plus tard, je pense, quand l'arc en cours sera fini. Alors, Donc, cette histoire met en scène Mojo, qui va capturer les Uncanny Avengers pour les confronter aux Avengers of the Supernatural. Je vous le donne en mille, c'est Doctor Strange, Man-Thing, Blade et tous leurs amis. Alors, Mojo est utilisé comme d'habitude, c'est-à-dire pour critiquer un peu tout ce qui est corporate, la télévision, avec ici une page très drôle où Mojo, qui est confronté aux gens, qui lui commandent l'émission, doit défendre son steak contre ces personnes qui veulent modifier ses concepts, hein, petit pied de nez aux séries, où au final le rendu ne ressemble plus vraiment aux séries pitch à la base. Avec des petites blagues du genre est-ce qu'on peut avoir Wolverine, est-ce qu'on peut avoir les Avengers dans la série car ils sont devenus hype, ou même carrément ils demandent s'ils peuvent les zombifier, voilà, petit pied de nez rigolo et qui mange pas de pain aux excès de Marvel de ces dernières années. Alors bon, je vais pas vous raconter l'histoire, je vous laisse découvrir ça, c'est très sympathique. Comme souvent écrit Remender, il y a pas mal de second degré, notamment avec Wolverine et Thor au début qui font un concours de boissons en plein après-midi, ce qui atterre Captain America qui de son temps disait qu'on n'aurait pas permis ça. Et voilà, c'est pas non plus renversant comme la série principale, c'est vraiment un petit one-shot. À voir maintenant par contre s'il y aura des suites à cela. Donc évidemment pour moi, comme toujours pour Uncanny Avengers, c'est un bon Bayonet.
Ah, et...
Oui, ben... J'ai l'impression qu'il a...
on va non, pas s'en sortir. Pas tous en même temps, par pitié. Flo, vas-y.
Oui, une petite remarque sur ce numéro. Demain, à partir de demain soir, à la librairie Apocalypse, Paul Renaud sera présent pour exposer ses planches. Une petite exposition qui dure toute la semaine. Des planches de ce numéro et qui sera en dédicace, notamment toute la journée, tout l'après-midi, pendant le Free Comic Book Day.
Sauf que le Free Comic Book Day, d'accord. Ce que j'allais dire, sauf que le vendredi, c'est con, l'émission sort le samedi.
Et oui, mais il sera présent, c'est vrai, mais il sera présent samedi l'après-midi pour dédicacer, et vous pourrez voir si vous passez à la boutique les planches originales. Il y aura des prints aussi très jolis que j'ai vu, taille planche colorisée, ancrée colorisée sur un très beau papier pour une quinzaine d'euros. C'est vraiment sympa, une planche colorisée comme ça, très très jolie. Voilà, et j'ai
Benny,
vu les planches, c'est très joli.
Pardon, mais Benny, tu allais dire.
Là, j'allais surtout dire s'il y a des planches qui disparaissent, vous savez qui c'est. Sinon, j'allais dire cet épisode, ça semble plutôt être un épisode plus frais, plus fun, plus déconnant que ce qu'il fait d'habitude sur la série, qui est quand même très sérieux. Donc là, je pense qu'il s'est juste fait plaisir et qu'il a voulu faire un petit peu de trucs fun pour les lecteurs, mais c'est pas forcément utile forcément cet épisode, je pense.
Oui et non, parce qu'il y a quand même des petits clins d'œil, enfin il y a quand même des évocations, comme par exemple la relation entre Wonder Man et Wanda, qui est un peu plus explorée. Donc c'est avec Remender, rien n'est jamais gratuit de toute façon, on l'a vu sur ses précédentes séries. À mon avis, il se resservira de ces éléments là plus tard.
De toute façon, reste à savoir si les Avengers of the Supernatural ne sont pas un groupe en devenir, qui aurait un autre nom que les Defenders, parce que enfin, ça ressemble plus ou moins aux Defenders.
Les Midnight Suns.
Les Dark Avengers.
Un mélange entre les Defenders et les Midnight Suns, en effet. Et que, bah justement, avec le nom Avengers, on sait très bien que ça fait vendre beaucoup plus que sans le titre Avengers, tout simplement. Donc, tu as mis un bail. Voilà, tout simplement.
Oui, un bail, oui.
On va passer à Flo qui va nous parler du deuxième numéro de Silver Surfer.
Eh oui, le Silver Surfer par Dan Slott et Mike et Laura Allred. Donc le Silver Surfer dans le numéro 1 avait débarqué dans un monde totalement fou, tu nous en avais parlé Steve, le mois dernier, qui s'appelle The Impericon, un monde impossible, voilà, avec plein de couleurs, plein de buildings chelous, des casinos, enfin c'est très très étrange.
Une architecture qui défie les lois de la gravité.
Oui, c'est ça, complètement. Et il va être embauché par Zed l'Incrédule, qui est le propriétaire de cette planète, pour sauver cette planète d'une mystérieuse menace, The Never Queen. Et pour le motiver à sauver cette planète, Zed va kidnapper une terrienne qui va se retrouver sur cette planète, sauf que ça pas spécialement motivé le Silver Surfer puisque ils se connaissent pas en fait. Zed pensait que ça allait être l'amour de sa vie, qu'il fallait absolument sauver la planète pour la sauver, et en fait ils se connaissent pas du tout. Mais bon, comme le Silver Surfer est un mec cool, il va quand même aller essayer de sauver le Impericon de la Never Queen. Donc dans ce numéro, c'est simple, on continue, le Silver Surfer va aller voir cette immense menace Never Queen, une genre de dame de l'espace géante, une Galactus, une genre de Galactus un peu, et il va se rendre compte que finalement c'est un petit peu plus compliqué et que c'est pas juste des gentils et des méchants, et que c'est pas forcément elle la méchante. Et Dawn, elle qui est enfermée dans une cellule, la cellule des motivators, où il y a tous les autres motivators, je sais pas trop comment le dire d'autre, des créatures de l'espace, et elle va essayer de s'échapper de cette cellule avec ses nouveaux comparses, ses nouveaux voisins de cellule. Et voilà, c'est très frais, très sympa. Le premier numéro m'avait pas du tout convaincu, la sauce avait pas pris, et j'ai bien fait d'aller voir le numéro 2 parce que c'est là ça part plus quoi, l'aventure part et les délires de Slott et de Allred prennent un peu plus corps et voilà sur la longueur, alors que le premier j'ai trouvé ça trop gratuit, trop délirant pour être délirant. Donc je suis plutôt très content de cette lecture. Tu l'as lu aussi, Marty?
Oui, et franchement, j'ai rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit, à part que moi j'étais conquis dès le premier numéro. C'est assez délirant, c'est fouillé aussi. Faut quand même avoir une bonne compréhension de l'anglais, je pense, pour saisir toutes les subtilités. Et bon, comme toujours avec Allred, c'est magnifique. Ça, Never Queen, je la trouve vraiment superbe. Et on peut noter aussi que Slott fait un clin d'œil involontaire et indirect à Spider-Man, vu qu'ici on a des flashbacks qui se passent 12 ans dans le passé. On découvre donc que Galactus est arrivé sur Terre un an après que Peter Parker ait été mordu.
Ouais, voilà. Ces personnages sont toujours aussi savoureux. Zed est vraiment, vraiment rigolo. Dawn, elle est marrante parce que c'est une nana qui est jamais sortie de son bled aux États-Unis, et là elle se retrouve sur une aventure incroyable avec des aliens et tout, mais elle se démonte pas quoi, c'est une bonne nana de la campagne qui, allez hop, elle s'en fout quoi. rien ne l'arrête et rien ne l'étonne, donc c'est vraiment marrant quoi.
Ouais, en un épisode là vraiment il a réussi à me vendre Dawn. C'est vrai que ça c'était un peu le premier épisode, je la trouvais un peu anecdotique, mais là dans le deuxième vraiment elle prend de l'importance et on sent qu'on pourrait prendre vraiment plaisir à suivre ses aventures avec Norin Rad à l'avenir.
Faut pas oublier qu'on l'avait vu dans le Point One et que j'avais l'impression qu'il y avait une intrigue un petit peu amoureuse entre les deux, et je pense que cette intrigue pourrait arriver par la force des choses justement.
Ah oui, ça pourrait arriver.
Il y a des pistes vers ça, oui.
Pour arriver. Mais en tout cas, elle a un sacré caractère, c'est assez marrant. Donc
pour le moment, par contre, on n'en est toujours pas rendu à peu près à l'époque où ce qu'on avait vu dans le Point One.
Eh ben, je l'ai pas lu, le Point One, alors du coup, je sais pas.
Non. Bah, en fait, j'ai l'impression d'ailleurs que la plupart des séries, c'est pareil pour Miss Marvel, pour l'instant, ce qu'on voit dans la série est antérieur à ce qu'on voit dans le Point One.
Ouais, c'est-à-dire que le Point One se passe après l'arc introductif.
Oui, voilà, exactement. C'est ce qui semble.
Bien possible.
C'est une drôle de façon de présenter les choses, mais
pourquoi pas. S'il s'embrouille pas dans la continuité, pourquoi pas.
Donc finalement,
Pour moi, ça sera un très bon bail, et mieux que le premier que j'avais trouvé trop gratuit. Donc si vous étiez comme moi un petit peu dubitatif, malgré le fait que je suis fan de Michael Red, j'étais dubitatif. Le deuxième,
c'est pour ça sûrement que tu as été acheter le 2.
Ben voilà, je me suis dit, allez, on va quand même y aller, et j'ai pas été déçu, donc c'est vraiment très sympa.
Oui, et pour moi, un bail également. Et si vous aviez bien aimé le premier, vous allez super adorer le deuxième.
Très bien. On passe à quelque chose de complètement différent. Alors là, on n'est plus du tout dans le fun, dans le rigolo. On est dans le profond, le sérieux et le pas drôle du tout. C'est la sortie du deuxième numéro de Hulk. Cette reprise du titre anciennement par Mark Waid et toujours par Mark Waid, avec des dessins de Mark Bagley et ancré par Andrew Hennessy. On se rappelle qu'à la fin de la précédente série de Hulk, il avait été, on lui avait tiré dans la tête, hein, tout simplement. On avait un premier épisode qui était assez étrange, avec des gens qui faisaient des espèces d'expériences sur Bruce Banner, qui lui ponctionnaient du sang, des fluides, etc. On ne savait pas trop à quel but, se faisant passer pour des gens du Shield, mais n'en étant pas finalement, c'est le cliffhanger sur lequel on était resté à la fin du premier épisode. Dans ce deuxième épisode, on démarre dans les locaux du Shield avec Maria Hill et Phil Coulson qui essayent de comprendre qui aurait pu tirer sur Hulk. Et on assiste, c'est un spoil mais en même temps c'est sur la cover, à la recréation de l'Abomination.
Oh,
le vrai.
Enfin.
Pas la paille bombe, le vrai Abomination.
Enfin.
Et il y a forte chance que ce soit lié, bien évidemment, enfin c'est même pas de forte chance, c'est 100% sûr, c'est tout ça lié avec les fluides qu'on avait récupérés sur Bruce Banner lors du premier épisode.
Quand tu dis le vrai Abomination, c'est son alter ego, c'est le même ou c'est un nouveau du coup qui va...
Alors, en tout cas, là, il est recréé de toutes pièces et on a l'Abomination avec le look classique. Après,
ah oui,
qui
d'accord.
est dessous, okay. À voir s'il y a même quelqu'un dessous, tout simplement. Mais là, c'est enfin le look classique. On n'est plus du tout dans le A-bomb ou ce genre de truc assez étrange. Là, ensuite, on va suivre un Bruce Banner qui se fait appeler Bobby, qui est élevé par ses grands-parents, enfin en tout cas ce qu'il pense être ses grands-parents, et qui est devenu ni plus ni moins qu'un espèce de d'attardé mental, quoi. Il est là en train de balayer l'église, il fait du bon travail, et on a des grands-parents qui essaient de s'occuper de lui du mieux possible, qui lui apportent son déjeuner, et on voit que malgré tout, Bruce Banner est toujours sujet à des petits accès de colère quand il n'arrive pas à faire quelque chose, et notamment là, ouvrir un simple Tupperware pour manger son sandwich.
Il y a de quoi tuer quelqu'un, quoi, je veux dire, voilà.
Ah, quand on s'appelle Bruce Banner, oui, c'est possible. On comprend, enfin voilà, on est au fin fond du Kentucky, dans une espèce de petite ville à l'américaine qui n'aurait pas évolué depuis les années 50. C'est assez étrange, on est vraiment dans une ambiance tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans Hulk. Cette ville est complètement remplie d'agents du Shield sous couverture qui essayent de monitorer un petit peu les accès de rage de Bruce Banner. Et on voit que ses grands-parents font partie du Shield et qui sont tous sous couverture, mais les choses vont bien vite déraper puisque l'Abomination va arriver. Et il y a Maria Hill qui est présente sous couverture, elle aussi, n'a pas d'autre choix qu'essayer de faire retransformer Hulk en Bruce, enfin de Banner pardon, en Hulk. Alors y arrivera-t-elle? C'est la grande question que l'on peut se poser à la lecture de ce numéro. Vous aurez la réponse évidemment. Je vais pas trop en révéler. C'est franchement super bien foutu. C'est vraiment un ton. Autant le Daredevil de Mark Waid, par rapport à l'ancienne série, il y a quand même un ton différent, un ton un peu plus sombre à San Francisco. Et ben là, c'est pareil. On a un ton complètement différent de la précédente série de Hulk. C'est à la limite est un peu glauque, quoi. Enfin, le personnage en plus est vraiment bien dessiné. L'espèce de Bobby Bruce Banner. L'attardé mental est vraiment bien dessiné par Bagley qui lui rajoute des petites touches. On voit cette espèce de grosse cicatrice qu'il a à l'arrière du crâne, même si les cheveux ont commencé à repousser. Il a quand même des petits filets de bave qui coulent. Enfin, vraiment, on ressent de la pitié pour ce Bruce Banner, surtout quand on se pense que c'était un des plus grands esprits scientifiques, en tout cas de l'univers Marvel, et voir ce qu'il est devenu là. Franchement, super intéressant, un peu glauque, mais j'ai vraiment hâte de voir où il va aller avec ça, parce qu'il a véritablement des possibilités énorme avec ce titre. Donc pour moi, c'est un énorme bail, ce Hulk.
Donc, contrairement à la précédente série, il semble avoir un fil rouge et des histoires à raconter cette fois.
Oh, comment tu craches.
En plus, j'aimais bien les débuts, mais faut quand même avouer qu'il n'était pas. Enfin, il n'avait pas non plus des grosses histoires à raconter, quoi. Donc là, il semble avoir un
en
truc.
En même temps,
assez...
il a été pris à chaque fois par tous les events.
Ouais, c'est clair.
Mais comme pour Daredevil, j'ai l'impression qu'il part aussi vers le plus sérieux, le plus sombre, le plus glauque d'un seul coup, quoi. Aussi.
Ouais. Mais justement, enfin, après avoir eu du frais, du fun, là, on a vraiment un gros revirement dans le plus sombre. Et j'ai hâte de voir, en espérant qu'on le laisse faire ce qu'il a envie, surtout.
Eh oui, mais j'avais adoré les épisodes de Hulk bien glauque, bien sombre, bien horrifique de Bruce Jones, qui pour moi c'était peut-être l'un des meilleurs runs de Hulk de tous les temps.
Donc, moi, je t'encourage à lire ça pour pouvoir comparer, justement.
Ouais.
On est vraiment dans un ton, en tout cas, que moi, je n'avais pas vu jusqu'à présent sur Hulk. Mais je suis loin d'avoir tout lu sur Hulk. Donc, je vais temporiser un peu mon avis. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qui se passe dedans et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, quoi. Et puis, quelles sont les conséquences aussi pour Hulk? Est-ce que lui aussi est affecté par ce qui s'est passé pour Bruce Banner? On aura la réponse peut-être un peu dans ce numéro et dans les numéros suivants en tout cas. Voilà en tout cas pour Hulk. On va terminer notre partie Marvel avec Marty qui nous parle du All New X-Men numéro 26.
Oui, All You X-Men numéro 26, toujours écrit par Brian Michael Bendis, avec aussi bien pour la couverture que les pages intérieures, Stuart Immonen au dessin, toujours aussi bon, assisté pour l'ancrage par Wade Von Grau-Badger, et Marte Grazia pour les couleurs. Oui, donc... Oui, je... Oui, je prononce comme ça et je vous merde. Donc, épisode qui, après le 25, qui était un peu un standalone anniversaire, qui s'éloignait de la trame principale, ici on revient sur les jeunes X-Men du futur qui viennent de revenir de l'espace. Et l'épisode commence par une confrontation, enfin une confrontation, un dialogue entre Scott Summers, le Scott Summers adulte donc, et la jeune Jean Grey. Et j'ai trouvé que c'était franchement la meilleure utilisation que Bendis a fait de Cyclops depuis le début de son run. Et c'est vraiment une conversation super intéressante. Comme le reste de l'épisode, vraiment, j'ai été surpris. Parce que ça fait quand même longtemps que régulièrement, aussi bien dans les reviews podcasts qu'écrits du site, on critique beaucoup ce titre. Et là, vraiment, Bendis reprend du poil de la bête avec un final qui raccroche les wagons à Battle of the Atom. Alors, après, on connaît Bendis, il a l'habitude de faire de très bonnes intros pour ensuite totalement faire tomber à plat son récit. Donc c'est pour ça que je ne donnerai qu'un check-it, ça aurait pu être un bail, mais bon, je vais rester prudent pour l'instant.
Bon, ben voilà, c'est fait. T'as rien de plus à rajouter sur ce numéro, finalement?
Non, franchement, c'est sympathique, mais... C'est beaucoup de dialogues, donc si je commence à détailler ce qu'il raconte, je vais vous gâcher tout le plaisir de la lecture, en fait.
En même temps, les dialogues à la Bendis, tu peux lire une bulle sur deux.
Ouais, oh. mais là, ça va, parce qu'il y a de la substance, en fait. Pour une fois, oui, il y a un peu du oui, non, mais il y a des vraies choses à dire, notamment, je vais revenir juste une minute sur le dialogue entre le vieux Cyclope et la jeune Jean Grey, ça a quelque chose d'un peu symbolique.
Il y a un pourquoi pas, il y a oui, non, pourquoi pas.
Écoute, il y a un pourquoi... Il y a un pourquoi pas entre les deux, enfin je préfère rester cryptique, mais c'est assez intéressant ce qui est développé. C'est vraiment, ça m'a intrigué. Enfin, Bendis utilise à bon escient les jeunes X-Men pour faire passer un message à Scott.
En fait, ils disent on baise, et puis elle dit peut-être. Voilà. On reste sur ce cliff quand même.
Si tu couches avec ton toi-même du futur...
Non, bah, pour tout vous dire,
tu peux te faire plaisir pour, j'allais dire pour pas cher, et puis pour, enfin voilà, en plus t'as rien à cacher, quoi.
Finalement, est-ce que ça reste un plaisir solitaire ou pas? C'est la question que je me pose, tu vois, quand même.
Bah, pour tout vous dire, vraiment, c'est, elle lui dit un truc, enfin, ils se disent un truc. Alors, je vais spoiler, sinon.
Non, ne spoil pas. Laissons les lecteurs, découvrir.
Ça se trouve, en fait, c'est tout pourri, en fait, ce que j'avance, et tout le monde va être déçu, on va me jeter des tomates virtuellement, mais bon. Regardez, si vous voulez reprendre, à mon avis, si vous avez laissé tomber le titre, mais que vous avez quand même envie de lui laisser une chance, surtout que Immonen est juste phénoménal sur le titre, essayez celui-là.
Ah bon, bah disons que bah, là tu le vends sacrément hein, en disant ça. Tu prends des risques. Mais non, mais juste pour rebondir sur le mois du futur, ça dépend aussi quel âge il a, parce que le mois du futur, si tu fais avec ton mois du futur qui a 70 ans...
Enfin, là elle le fait pas avec son elle du futur, elle le fait avec avec la version future de son presque petit copain.
C'est ouais. N'importe quoi.
Ouais, et peut-on dire que c'est encore toi, justement, quand t'as 70 ans dans la gueule Je reconnais même toi-même.
Ce sont des questions existentielles quand même.
Bah, comme quoi, lire des comics, c'est philosophique.
Alors finalement, ta note.
Comme je l'ai dit avant, hein, c'est. J'aurais pu dire bye, mais non, on va rester sérieux. C'est Bendis quand même. Il peut nous réserver le meilleur comme le pire, donc on va dire check it.
On va passer aux TPB de Marvel qui sont sortis cette semaine. On commence avec un Masterworks en version TP. C'est le Marvel Masterworks Captain America, donc c'est le troisième, c'est au prix de $25, qui va reprendre les épisodes 101 à 113 de la série de 1968 de Captain America, au moment où le titre est devenu Captain America après être passé sous le titre Tales of Suspense. Autre TPB sorti cette semaine, c'est le Marvel Zombies Complete Collection Volume 2, c'est au prix de $35. Si vous avez envie de vous faire la complète des Marvel Zombies, vous retrouverez à l'intérieur de ce deuxième volume la mini-série Marvel Zombies numéro 2, la mini-série Marvel Zombies numéro 3, la numéro 4 et Marvel Zombies Return, ainsi que du matériel de Marvel Spotlight Marvel Zombies Return. Pour les complétistes de cette franchise, puisque c'est plus ou moins une franchise finalement de Marvel aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour les TP Marvel cette semaine, pas grand chose. On va passer à la partie indé et on commence avec toi, Flo, qui nous parle d'une nouvelle série qui s'appelle Thousand Bastards.
Oui, oui, une série très attendue. C'est le nouveau projet indé de Jason Aaron et dessiné par Jason Latour, un de ses amis, qui avait par ailleurs dessiné quelques épisodes de Sculpt. Thousand Bastards, ça parle d'un retour, le retour de Earl Tubb, un homme d'un certain âge qui a la bonne soixantaine.
J'essaierai de pas faire de blague.
Est-ce que c'est un homme d'une certaine taille ?
Non, c'est un homme d'un certain âge. J'ai pas compris la vanne.
Bah, Tubb, taille, bon, c'est pas grave.
Ah, d'accord. Fou là là.
C'était tellement facile que tu l'as pas vu, celle-ci.
Non, c'est vrai. Donc, Earl Tubb.
T'as cherché de l'humour élitiste chez nous, quand même. C'est pas normal.
S'il l'a pas vu, c'est qu'elle est pas très grande, d'ailleurs.
Donc, un homme qui a au moins une bonne soixantaine d'années. Et c'est l'histoire de son retour temporaire, en tout cas, ce qu'il croit, dans sa ville natale, qui s'appelle Crow County, Alabama. Une ville.
Oh, ça pue le sud, ça.
Ah, bah, si tu veux, la première page du comics, c'est un vieux chien errant dégueulasse qui chie. Vraiment, il est en train de chier juste devant le panneau d'entrée de la ville, quoi. C'est vraiment, mais ultra glauque et bien dégueu, quoi. Donc, c'est une ville, évidemment, une petite ville pleine de redneck. Vraiment, c'est le fin fond des États-Unis. Et Earl rentre dans cette ville avec un camion de déménagement pour vider sa maison natale, la maison qu'il a quittée il y a 40 ans et où est mort son père il y a 40 ans aussi, et où vivait en fait un de ses oncles. Un de ses oncles vivait dans cette maison et il est parti dans une maison de retraite, donc du coup voilà, c'est lui qui s'occupe du déménagement et de vider la baraque. Et c'est la première fois depuis 40 ans qu'il retourne à Crow County. On ne sait pas bien encore pourquoi il est parti, qu'est-ce qui est arrivé à son père il y a 40 ans, pourquoi il est parti, effectivement. Son père était le shérif de la ville et un genre de super flic. Voilà, il y a eu un événement dans sa vie qui lui a amené une certaine réputation, un peu de héros local, et c'était le shérif de la ville. On va voir Earl, c'est un petit peu entrer en contact avec d'anciennes connaissances et se rendre compte qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans cette ville, et notamment un certain coach qui a l'air d'être un peu le baron de la ville. Tout le monde en parle, c'est un peu voilà un genre de mafieux, voilà, qui s'appelle le coach. Et pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, honnêtement. Mais ce numéro lance plein de pistes, pose une ambiance assez géniale, vraiment poisseuse à souhait. Les dessins de Jason Latour et les couleurs sont vraiment géniales, quoi. C'est des en tons de gris, de pastel, le ciel est un petit peu jaune pisse, voilà, c'est presque noir et blanc, c'est vraiment très très beau et ça donne bien l'ambiance.
Alors il y a du pipi, il y a du caca, bah dis donc.
Ah ouais, c'est très beau, ouais.
c'est vraiment sale, les couleurs sont vraiment très belles. Le dessin un peu rough, un peu à la Goran Parlov de Jason Latour, un truc très, très anguleux, ça va parfaitement avec le style et la ville qu'il est en train de dépeindre.
Comme Rof et Booba.
Putain. Oh là
là. Il castagne des jeunes dans des magasins.
Et en gros, voilà, il n'y a pas tellement de cliff, mais on commence à se rendre compte que il est possible que Earl passe plus que 3 jours à Crow County. Qui aura certainement des choses à régler avec son passé et que cette ville, il aura peut-être envie un petit peu de se pencher sur ce qui se passe dans cette ville. En tout cas, c'est assez violent, il y a des scènes assez trash.
En même temps, c'est du Jason Aaron, hein.
Il y a des moments de flashback assez mystérieux et assez touchant sur sa jeunesse, et il y a surtout plein de mystères sur voilà pourquoi il est parti il y a 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé, qui est ce coach. Donc il a lancé plein de pistes, et je ferai un parallèle avec Scalp, c'est que c'est aussi l'histoire d'un retour.
Scalp. Tu m'ôtes les mots de la bouche, quoi. Tu m'ôtes les mots de la bouche, j'allais dire, c'est encore une fois une histoire de retour. Et si ça suit le même chemin qu'a suivi Scalpt, on est parti pour quelque chose de bon là.
Bah, je ne vais pas juger uniquement sur le premier numéro, mais ça commence très très bien, même si ça mériterait d'avoir le deuxième tout de suite, quoi, honnêtement, parce que c'est une petite mise en bouche. Mais voilà, pour moi, c'est génial. C'est mon coup de cœur de la semaine. Ça s'annonce. Le storytelling est très, très, très sérieux. Il tient bien ses personnages du Sud. Bah, il vient du Sud lui-même, hein, Jason Aaron.
Par tous les chemins, il y retourne.
Il connaît bien ses personnages.
Putain, j'allais la faire, c'est terrible.
Ne te laisse pas décontenancer, par pitié.
Pour moi, c'est vraiment un très, très bon départ. Et ça, c'est très sombre. Et j'espère que ça sera aussi bon que Scalp, qui est pour moi un des meilleurs comics indés que j'ai lu de tous les temps. Donc,
Une dernière petite précision, c'est sorti chez Image.
Oui,
Jason Aaron est parti chez Image pour faire cette série.
Oui, j'avais pas précisé, effectivement. Et ça coûte $3.50. Foncez si vous avez aimé Scalp, j'ai même pas besoin de vous le dire, je pense que vous foncez déjà dessus. Donc c'est incroyable, c'est génial, c'est mon coup de cœur, c'est trop bien.
On va rester chez Image avec la sortie d'un nouveau titre, Mister and Ebony, tu nous parles de Dream Police.
Ouais, Dream Police, donc petite pépite, on reste vraiment dans le très 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 bon. J. Michael Straczynski est au scénario et Sid Kotian, ou Kotian, est au dessin. Des dessins très 90s, j'ai trouvé, avec un style un petit peu à la Klaus Johnson. Voilà, enfin en tout cas c'est pas moche quoi, c'est pas mal. Et alors surtout le scénario de Straczynski, alors c'est deux lieutenants, deux agents qui sont en fait qui s'occupent de régulariser le monde des rêves. C'est assez space, mais on rentre très vite dedans et il y a ça fourmille d'idées, c'est un truc assez hallucinant. Donc au fait, au début par exemple, ils interpellent un gars qui s'est transformé en dragon parce que c'est normal hein, dans les rêves un peu tout est possible. Ils se rendent dans un lieu au fait où les gens rêvent, c'est une espèce d'énorme bâtiment où il se passe un peu tout quoi.
Et c'est la ville qui est l'endroit des rêves en fait.
Ouais. Bah au fait au début, il te montre un immeuble dans lequel certaines personnes vont pour rêver ou en tout cas pour faire certains types de rêves, enfin je sais pas, c'est assez mystérieux. Et après, oui, effectivement, ils sont dans cette ville qui, de toute façon, est un rêve géant. On est un petit peu dans... Comment ça s'appelait ? Avec Leonardo DiCaprio, j'ai oublié. Ça me reviendra pas.
Inception.
Inception, voilà. J'allais dire Insidious, mais ça n'a rien à voir. Sauf que Insidious, ce serait plus le côté cauchemardesque.
Qui est présent aussi, de toute façon.
Qui est présent, oui, parce qu'il y a aussi des êtres, justement, issus des cauchemars avec lesquels ils doivent un petit peu composer. Et franchement, il y a des idées de ouf. Par exemple, quand ils mangent dans un resto, parce que eux peuvent manger, peuvent avoir des vraiment de ressentir la douleur, etc. dans ce monde-là. Et du coup, enfin voilà, ils sont dans un restaurant et puis le restaurant change au fur et à mesure des cases parce que on est dans un rêve, donc d'un seul coup ça devient un restaurant pakistanais, ensuite c'est un restaurant japonais, la case suivante, etc., etc. Et à un moment donné, ils sont même dans un restaurant avec servi par un extraterrestre, avec ils ont des yeux dans leur assiette.
La bouffe change aussi, c'est surtout qui est drôle.
Tout change, c'est comme dans un rêve quoi.
Le storytelling est bien foutu, on voit la serveuse avancer et à chaque fois changer de costume en même temps que l'ambiance du resto change, enfin c'est vraiment vraiment bien foutu quoi.
Ouais, c'est hallucinant. Moi franchement, il y a tellement d'idées là-dedans que je verrais un film je verrais très bien un film là-dessus sur grand écran, ce serait génial. Et alors en fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que on nous montre ce qui se passe lorsqu'un individu se rend compte qu'il est en train de rêver, qu'est-ce qui peut se passer. Et en l'occurrence, il se passe quelque chose, ça tourne un petit peu mal. Et voilà, ça va avoir des conséquences. Et il y a cette fin qui m'a surprise. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Enfin voilà, ça. Franchement, c'est vachement intriguant. J'ai dévoré ce truc, toutes les pages sont intéressantes. Ça fourmille d'idées, c'est. Voilà, c'est génial. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un truc qui m'a autant plu.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est écrit sur le ton du détective noir des années 60, à peu près 50-60.
Ouais.
Donc, on a un truc complètement onirique avec les rêves, avec toutes les possibilités que ça entraîne, mais tout ça vu par deux détectives qui sont vraiment des détectives, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Les mecs avec les trench coats, les cravates, les flics un peu endurcis, le côté hard boiled quoi.
Tout à fait. Et dans un monde onirique, enfin totalement incroyable, et pour qui s'intéresse un petit peu au monde des rêves, parce que bon, ça fait marrer comme sujet. C'est génial quoi. Franchement, c'est un truc de ouf. J'adore je suis fan quoi. En un numéro, ça m'a conquis et j'ai vraiment envie de lire la suite. Et comme j'avais dit un jour, vivement que ça sorte.
Il nous pose un univers en un numéro. Il arrive à faire un travail de création d'univers en un numéro qui est juste impressionnant.
En même temps, certains diront que c'est un peu facile finalement comme idée, hein, l'idée du rêve. D'autres l'ont eu avant lui. Je parlais notamment d'Inception, mais en tout cas, malgré tout, il arrive à en faire quelque chose et à raconter une histoire intéressante et à développer des intrigues dès le premier épisode qui sont prenantes, qui sont passionnantes. Alors pour moi, c'est un méga coup de cœur, quoi.
Entre l'intrigue sur un des deux détectives, entre l'intrigue avec les créatures de cauchemar, ouais. Rien que déjà ça suffirait à fournir deux grosses mini-séries. On a tout ça juste dans le premier épisode. Ça donne vraiment sacrément envie pour aller voir la suite, quoi. Ah, tous les épisodes sont de cette qualité-là.
Ouais, c'est un ongoing, hein, j'espère.
Je ne sais pas, parce que ça fait partie des projets un petit peu plus fun de J. Michael Straczynski. Comme Apocalypse Hall, on avait Apocalypse Hall qui était un truc en 4 épisodes. Là, je sais pas combien il a prévu. De toute façon, parce que c'est sorti sous le label Joe's Comics chez Image, ouais. Le principe des Joe's Comics, ce sont des séries de 12, en tout cas au maximum 12, et ça revient pour une saison 2 si jamais il a d'autres choses à dire et si le public le réclame. Mais ça veut pas dire que ce sera 12 obligatoirement, ça peut être moins.
En tout cas, voilà. Vraiment génial.
Excellent.
Bon, je suis soufflé, c'est encore rêver. Voilà. Un méga bail, méga coup de cœur de la semaine.
Pareil, gros bail, coup de cœur aussi pour certains devraient prendre exemple là-dessus, comment dépeindre un monde en un numéro. C'est tout à fait possible de dépeindre un monde hyper intéressant, nous en donner plein, nous laisser aussi plein de questions, mais nous en donner plein assez pour attendre jusqu'au mois prochain. Continuons avec Marty qui va parler de Dynamite avec Battlestar Galactica 6.
Oui, donc...
c'est le numéro 1, bien sûr.
Oui, numéro 1, une mini-série en 5 parties qui va revenir sur les origines de Six, qui était un peu l'égérie de la série. Rappelez-vous, cette Cylon blonde plantureuse interprétée par Tricia Helfer. Alors, l'histoire est écrite par J.T. Krull, illustrée par Igor Lima, avec des couleurs d'Alex Guimaraes, et des couvertures de Jenny Frison et Chris Bolson. Alors, comme je l'ai dit, ça va revenir sur les origines de ce personnage, qui était entouré d'un aura de mystère dans la série. Alors, petit rappel, dans Battlestar Galactica, d'ailleurs, si vous avez jamais vu cette série, éteignez ce podcast, ou alors dès que vous l'avez fini, courez acheter des DVD et regardez-la. C'est vraiment la meilleure série de SF à mes yeux que j'ai jamais vue. Donc, dans Battlestar Galactica, on suivait la lutte entre les humains et les Cylons. Les Cylons qui sont des robots qui ont fini par évoluer jusqu'à prendre forme humaine et à s'infiltrer dans la société, dont cette Six, ce personnage central de la série. Alors, je vais pas en dire grand-chose sur ce numéro, car il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est vraiment un numéro introductif qui se passe dans une double temporalité. D'un côté, on suit le passé de Six qui se fait alors appeler Rebecca, chose nouvelle d'ailleurs, car dans la série, la Six principale n'avait jamais de prénom. Et donc Rebecca travaille sur une colonie minière, et en parallèle de ça, quelques années plus tard, c'est pas vraiment expliqué combien de temps se passe entre les deux, on la retrouve internée dans un asile où elle a perdu la mémoire. Et donc, dans ce numéro, alors on ne saura pas comment elle passe de l'un à l'autre, mais il y a des pistes. C'est assez intéressant à lire, mais pas non plus renversant. Je pense qu'il faudra vraiment voir cette histoire sans vraiment l'histoire écrite pour le TPB. Alors au niveau des dessins, comme toujours quand on adapte une licence, il y a toujours ce problème des visages qui ressemblent ou non. Là, le visage de Six est assez ressemblant. Par contre, quand d'autres personnages de la série apparaissent, c'est parfois moins évident de les reconnaître. Mais bon, ça, c'est les problèmes inhérents à ce type d'œuvre. Alors voilà, je ne veux pas rajouter grand-chose, car il y a vraiment pas grand-chose à dire. Il s'y passe pas non plus des masses d'événements. Par contre, c'est vraiment à réserver aux fans de la série. Si vous aimez pas Battlestar Galactica, ou vous ne connaissez pas ça du tout, franchement, passez votre chemin. Et à mon avis, même si on est fan de la série, faut pas non plus s'attendre à de grosses révélations. C'est vraiment pour le plaisir. Si vous êtes nostalgique de Galactica, bon, ça a l'air de bonne facture, donc tentez, voilà. Et pour ma part, ce sera donc un check-it.
Très bien. On va passer à l'univers Valiant maintenant avec la sortie du premier numéro de Ra et Flo.
Oui, numéro également très attendu, en tout cas pour moi, écrit par Matt Kint, qui a le vent en poupe chez Valiant, et peint digitalement par Clayton Crane. Cette série se passe en l'an 4001, dans un Japon très futuriste, dont on va voir au fil du comic que, en fait, il n'est plus sur Terre, le Japon. Le Japon, ils se sont construits une genre d'énorme cité dans le ciel, à la limite de la stratosphère et de l'espace, vraiment gigantesque, où tout le monde se marche un petit peu dessus. Et ils ont quitté la Terre parce que, a priori, c'était trop la merde sur la Terre, donc le Japon a décidé de se barrer et de s'isoler. Et dans ce Japon futuriste, il y a une genre de légende urbaine qui est le protecteur du Japon, qui s'appelle Rai. On sait pas trop ce que c'est, si c'est un humain, un robot, parce que dans ce monde il y a un type de robot qui servent un petit peu de compagnon aux humains, qui sont des cyborgs très très ressemblants, voilà, et qui sont organiques et qui peuvent évoluer parallèlement aux humains. On sait pas trop ce que c'est, en tout cas il est très fort, personne le voit jamais trop. Et ce Rai, il a ses appartements tout en haut de cette station orbitale, dans un genre de jardin avec un cerisier japonais. C'est très joli. Alors qu'il n'y a pas un seul arbre dans le Japon. C'est un monde ultra futuriste avec des buildings immenses. C'est extrêmement futuriste. Et ce Rai répond à une seule personne qui s'appelle le Father, le père. Et on ne sait pas qui c'est, si c'est une intelligence artificielle, si c'est le président. Voilà. En tout cas, c'est le chef du Japon. On va suivre ça par les yeux de Lula, une adolescente qui vit dans ce Japon futuriste et qui cherche à rencontrer Rai en personne. Et l'élément perturbateur de ce monde tout bien propre, c'est qu'il va y avoir le premier meurtre de sang commis depuis 1000 ans. Voilà. Et Rai va devoir enquêter là-dessus et découvrir des tas de ramifications qui vont l'amener dans les tréfonds de ce Japon futuriste. C'est super intéressant, c'est très très joli, c'est peint, totalement peint par Clayton Crane, franchement, c'est parfaitement dans le ton, des tons assez violets, noirs, violets, mauves. Il décrit parfaitement ce Japon futuriste, les personnages sont bien, ça reste relativement dynamique dans les dessins, parce que je suis généralement pas trop fan des trucs peints, c'est toujours très très statique, et là c'est vraiment très très bien. C'est très mystérieux, le cliffhanger est putain d'efficace, comme toujours avec Matt Kint chez Valiant. C'est très très verbeux. Enfin, les pages, la narration de Lula, cette jeune fille, est assez verbeuse, comme toujours avec l'auteur. Mais ça passe vraiment bien, quoi. Ce qu'il fait là-dessus est vraiment cool. Et pour moi, ça m'a convaincu d'aller voir la suite. Petite note, ça se passe dans l'univers Valiant, mais bon, ça se passe dans le futur. Donc pour le moment, ça n'a aucun lien, évidemment, avec les autres séries de l'univers Valiant.
Et justement, ça peut être un avantage parce qu'on nous posait la question de comment prendre le train Valiant en marche. Justement, vous pouvez tester Rai, voir ce personnage qui est complètement indépendant du reste de l'univers Valiant pour le moment, mais au moins prendre la température un petit peu de comment sont écrits les comics Valiant, et puis pourquoi pas tenter ensuite, quoi.
C'est vraiment en dehors. Le personnage de Rai est assez fascinant, c'est un personnage bon. Est positif par nature, mais qui va être confronté à son rôle un peu d'arme vivante, et Et qu'est-ce qui, voilà, à quoi il sert dans cette société et comment résoudre ce premier crime en 1000 ans, quoi. On ne sait pas bien non plus quel âge il a. À noter aussi, j'ai pris l'édition Plus qui coûte $5 au lieu de 4 et qui ajoute une quinzaine, entre 15-20 pages de bonus, notamment une fresque sur 4 pages de Matt Kint qui décrit, qui dessine carrément, qui a redessiné le Japon et qui décrit tous les secteurs et tout. C'est très, très délirant. Voilà, l'imagination débordante de Matt Kint qui imagine les secteurs où on a recréé la Grèce antique, Rome antique, machin. Enfin, c'est assez fou. Plus des petites histoires de Ryan Hughes, Sean Ryan, Raoul Allen, Vicente Cifuentes, qui enrichissent en fait l'univers de Rai et le Japon, où on voit un petit peu des extraits de films diffusés dans ce Japon futuriste. Voilà, des extraits un peu de chat ou de review de films. Ça enrichit pas mal l'expérience et c'est plutôt pas mal. Pour $1 de plus, il y a pas mal de matériel. Donc pour moi, c'est un très bon bail.
On va passer à la suite. Nouvelle série, toujours avec V Wars, Marty.
Ouais, c'est chez IDW. V Wars, V pour vampire en fait. C'est écrit par Jonathan Maberi, dessiné par Alan Robinson et avec des couleurs de Jay Photos. Alors, encore une série de vampires, vous allez me dire, mais c'est assez intéressant. En gros, ça, au début de la série, depuis quelques semaines, mois, on nous indique pas exactement depuis combien de temps, un mystérieux virus réveillerait un gène vampirique présent a priori dans chaque personne sur Terre, et un peu au hasard, comme ça, sans qu'on sache comment le virus se transmet, des vampires apparaissent un peu partout. Alors c'est assez intéressant parce que ça me le pitch, enfin le le déroulement de l'épisode ressemble un peu au film, alors le nom m'échappe maintenant, World War Z, voilà. Alors vous allez me dire, oh non, il est nul ce film, mais ça reprend un peu l'idée d'un homme qui est envoyé à travers le monde pour trouver des indices sur les origines de cette épidémie et surtout sur comment l'endiguer. Alors à côté de ça, il y a aussi une intrigue plus politique, car ces vampires sont pas vraiment des vampires classiques. Alors, on nous donne pas de descriptif de leur pouvoir ou de leur capacité, mais a priori ici, les vampires peuvent sortir en plein jour et ne sont pas forcément méchants entre guillemets. Et certains, une partie d'entre eux veut se mêler à la population, alors ici on est aux États-Unis, donc la population américaine, tandis que d'autres sont beaucoup plus rebelles, et l'épisode commence avec l'assassinat du porte-parole de la Maison Blanche, qui pourtant prononçait un discours qui allait dans le sens d'une cohabitation pacifique entre les humains et les vampires. Et évidemment, suite à ça, une espèce de guerre civile, la V-Wars donc, commence. Alors voilà, c'est assez sympathique, c'est assez original je trouve comme pitch. Les dessins sont pas mal, sauf quelques visages que je trouve un peu trop crispés. Alors le héros qui s'appelle Luther est un personnage qui est directement concerné par cette épidémie, puisque sa petite fille qui doit avoir peut-être une dizaine d'années, du jour au lendemain devient une vampire et assassine sa femme et son fils et se retrouve interné. Donc le personnage est vraiment émotionnellement lié à la quête que le gouvernement lui donne à accomplir. Alors voilà, franchement, c'était une très bonne surprise. Je vais même en faire mon coup de cœur. Alors c'est pas le plus gros coup de cœur que j'ai eu du mois, mais ça s'est assez démarqué du reste de la production pour que j'y donne ce statut. Et c'est donc évidemment un bail.
Ça me fait vachement penser à une mini, j'arrive pas à retrouver le nom, qu'on avait eu chez Image il y a pas très longtemps par Wellsport SEO, avec une histoire de virus et de jouets qui prenaient vie en fait.
C'est pas Interkind, non, c'est ça ?
Non, ça c'est non, non. Ouais, retrouve pas le nom là comme ça, comme par hasard.
Oui.
Mais enfin, ce que tu en dis me fait vachement penser à ça, sur un autre thème bien évidemment, mais voilà, c'est peut-être rien à voir hein, justement. Enfin, une coïncidence.
Faut voir vers quelle direction la série va prendre ensuite. Mais il y a un peu cette idée, oui, il y a quelque chose d'inexpliqué qui arrive et une nouvelle race entre guillemets apparaît et les humains doivent choisir est-ce qu'on cohabite avec eux ou non. Et cette nouvelle race en elle-même, est-ce que elle a envie de cohabiter avec ou pas.
D'accord.
On est clairement cette thématique-là.
Je recherche toujours hein, le nom de cette série, mais ça veut vraiment pas revenir, ça me fait chier. Bon, tant pis, c'est pas grave.
Le dira en commentaire.
Donc ton coup de cœur de la semaine.
Oui. Petit coup de cœur. Oui.
C'était Non-Humans, voilà. Putain. La mini-série dont je parlais. On va terminer notre partie indé avec Flo qui va nous parler d'un projet Vertigo sorti cette semaine.
Oui, c'est une anthologie, ça s'appelle Vertigo Quarterly. Ce sera 4 one-shots qui sortiront un par saison. Donc là, c'est celui du printemps. Et c'est le numéro cyan. Donc la cover est équivoque puisqu'elle est couleur cyan. Il y aura un numéro magenta, un numéro jaune et un numéro noir. Donc ça correspond à la quadricromie, les 4 couleurs qu'on utilise pour imprimer nos comics préférés. C'est une anthologie qui a dont les histoires ont uniquement pour rapport la couleur bleue, enfin cyan. Ça peut être un élément de l'histoire ou juste un élément visuel, ou enfin ça peut être un truc très lointain ou très proche. En fait, c'est un prétexte juste à faire une anthologie, hein, voilà, globalement. Comme dans toutes les anthologies, il y a à boire et à manger. Ici, on retrouve 9 histoires courtes. Ça coûte 8$ quand même, hein, ça fait 80 pages. Avec en vrac du Joe Kittinge, du Lee Garbett et Jock, du Sean Simon, Tony Atkins, James Tynion IV, Fabio Moon, Javi Fernandez, voilà. Et je vais pas vous parler de toutes les histoires, mais il y en a certaines qui sont vraiment sympas. Celle de Lee Garbett et Jock, dessinée par Jock, très drôle, où c'est l'histoire de deux vendeurs de glace dans leur camion qui vont être confrontés à une genre de bête, un loup-garou, on ne sait pas trop, une bête surnaturelle, et ils vont essayer de s'en sortir, et c'est totalement what the fuck. La fin est vraiment très drôle. Les mecs, ils ont pas d'armes, pas d'outils, ils ont juste de la ficelle et le truc pour faire des boules de glace, tu vois. La pince là pour faire des boules de glace, et ils vont devoir se débrouiller avec ça. Enfin, c'est n'importe quoi et c'est vraiment très très rigolo. L'histoire de James Tynion IV, dessinée par Martin Morazzo, qu'on connaît pour Great Pacific, la série de Joe Harris chez Image, qui est très sympa, une histoire un peu hard SF dans un monde post-apo, une histoire d'amour assez belle et assez profonde, qu'on peut relire plusieurs fois pour en découvrir plusieurs sens. L'histoire de Joe Kittinge aussi, très très allumée sous LSD, une histoire de SF dans une station spatiale totalement ouf. Voilà, il y a à boire et à manger, mais il y a des idées, et on découvre des noms qu'on ne connaît pas, et des petites histoires assez sympathiques, et surtout totalement libérées de toute thématique, donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a même une histoire un peu steampunk, avec des genres de... un monde dominé par le charbon, et des rebelles qui utilisent l'électricité, et qui sont voilà, des terroristes, enfin c'est... Il y a tout. Tout ne se vaut pas, mais c'est quand même assez intéressant, et... Moi j'aime bien ces petites anthologies Vertigo, j'avais bien aimé Ghost, Witching Hour, les anthologies American Vampire, voilà. Donc je conseille la lecture pour voir un petit peu autre chose. Si vous aimez les anthologies, celle-ci sera bien. À noter quand même que ça coûte 8$, donc c'est sûr que c'est pas donné.
Ouais, mais bon, 80 pages, 8$, c'est le prix classique, hein. On a l'exemple de Dark Horse Presents.
Ouais, et puis
aussi chez Dark Horse.
J'aime beaucoup la maquette extrêmement sobre, quoi. C'est vraiment juste la couleur pleine.
Ah bah oui, en termes de sobriété, là, je pense qu'on peut pas faire plus sobre.
Ça vraiment, vraiment stylé, le design du bouquin. Donc j'irai voir évidemment la magenta jaune et noire pour voir un petit peu ce que font les auteurs et ce qu'on y verra. Donc c'est très cool, et puis c'est un bail, quoi. Voilà.
Pour terminer notre partie indé, passons sur les TPB sortis cette semaine. Chez Avatar, nous avons le deuxième TP de Absolution qui s'appelle Rubicon. C'est au prix de 20$, à qui reprend toute la mini-série Absolution Rubicon en entier, donc les 5 épisodes, ainsi que le Happy Kitty Special. Tout ça est bien sûr orchestré par Christos Gage et Daniel Guettet. Du côté de Boom, nous avons un omnibus sur 28 Days Later, la série qui avait été faite dans l'univers de 28 jours plus tard, évidemment, par Michael Alan Nelson et Declan Shelvey au dessin. On a les 24 épisodes de la série réunis là pour 40$.
Et c'était bien, ça ?
Bah, écoute, moi, j'ai lu à peu près la moitié. C'était vraiment pas mal. J'ai pas continué par manque de temps, principalement. D'accord. Mais c'était plutôt pas mal. Ah, c'était une bonne suite dans l'univers.
Moi, j'ai lu le premier tome chez Delcourt. Et ouais, c'était sympa.
les créateurs donnent envie. Michael Alan Nelson, c'est celui qui fait Fuse en ce moment.
Oui.
Ouais, effectivement. Oui, oui.
Et puis bon, Declan Shelvey, un de ses premiers gros travaux, en tout cas. Chez Dark Horse, maintenant, nous avons le TP de Star Wars Dark Times, le 7e TP, qui s'appelle le Spark Remains. C'est au prix de $20 et qui reprend la mini-série Dark Times, A Spark Remains, justement, les 5 épisodes. C'est du Randy Stradley. Enfin, chez Dark Horse, le 2e volume de X, cette série super-héroïque chez Dark Horse, écrit par Dwayne Swarzynski, c'est au prix de $15 et ça reprend les épisodes 5 à 8 de la série. Chez Image maintenant, nous avons le classique de tous les ans, le CBLDF Prisons Liberty, hardcover notamment, ça vaut $30, pardon. Alors vous avez plein d'auteurs à l'intérieur, c'est une œuvre aussi caritative qui vous permet justement de donner de l'argent en quelque sorte à ce CBLDF, hein, qui est le Comic Book Legal Defense Fund, qui permet aux auteurs de pouvoir avoir une aide juridique quand il y a besoin, de pouvoir les aider sur tout ce qu'ils ont besoin quand leur mutuelle ou autre ne les couvre pas. Alors vous allez retrouver entre autres du Jason Aaron, du Charlie Adlard, du Robert Kirkman, du Darwin Cook, du Paul Pope, enfin vraiment vous allez avoir plein de monde, il y a du Jeff Jones, il y a du Mark Millar, toute maison d'édition confondue, c'est véritablement une œuvre caritative. Chez Image, on a la sortie du Elephant Man 2260, le premier TP. C'est au prix de $10 qui vous permettra de découvrir cette série de Richard Starkings qu'il fait depuis vraiment de nombreuses années un peu dans son coin. C'est un TP qui permet de prendre le train en marche et c'est au prix de $10. Donc très bonne initiative de pouvoir choper un TP d'une série en cours qui en est rendue à son épisode 56, je crois, quelque chose comme ça. Là, voilà, vous avez une histoire qui vous permet de rentrer dans l'univers. Chez Image toujours, Pretty Deadly, le premier TP sort là aussi au prix découverte de $10, une très très bonne série de Kelly Sue DeConnick et Emma Rios. N'est-ce pas Flo?
Moi je l'ai pas lu, mais c'est Bruno.
Non, c'était Bruno, moi, autant
lu,
pour moi.
Mais je vais évidemment profiter de l'offre à $10 pour aller voir ça.
C'était sympa.
Et merde, j'ai confondu, pardon. Enfin, on parlait de Straczynski tout à l'heure, et bien vous pouvez découvrir une autre de ses séries de son label Joe's Comics, Sidekick, qui sort son premier TP au prix de $13, qui comprend les 6 premiers épisodes de la série, par J. Michael Straczynski évidemment, et Tom Mandrake au dessin. Voilà pour les TP de la semaine concernant l'indé. On va terminer notre partie de review avec DC, évidemment, et on démarre avec Batman Eternal numéro 4. Bunny.
Ouais, alors donc un Batman Eternal par toujours Scott Snyder et James Tynion IV, il y a aussi John Lehman et Ray Fawkes qui sont crédités pour le scénario, pour le plot. On a du Dustin Nguyen cette fois-ci au dessin. D'ailleurs je m'y attendais pas, au fait, je m'attendais toujours à retrouver la comment s'appelle-t-il ?
Jason Fabok.
Jason Fabok, voilà.
J'allais dire Gary Frank, que les trois premiers.
Ouais, voilà.
Je me permets juste de te corriger au début, c'est l'histoire est de Tynion IV et Snyder et le script est de John Lehman.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Voilà. C'est lui qui a écrit les dialogues.
Et ça, ah oui, bien. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Justement, un épisode que j'ai pas détesté, mais enfin, disons que là, très clairement, on se centre plus sur Batgirl, sur Barbara Gordon, donc sa réaction face au procès engagé contre son père, qui est donc accusé de tous les maux suite aux événements des premiers Batman Eternal. On a aussi Batman qui de son côté continue son enquête, qui est pas forcément d'accord avec la manière de faire de Batgirl, qui réagit évidemment très mal aux événements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet épisode? On voit un petit peu ce qui se passe avec Spoiler. Vite fait, c'est vraiment pas l'intrigue qui me passionne le plus, ce qui se passe avec Spoiler, parce que je trouve toujours cette intrigue un petit peu cheap, un petit peu grotesque. Bon, reste à voir où ça va. Et puis surtout, on voit ce qui se passe avec le commissaire Gordon qui est placé à Blackgate. Et voilà,
c'est, surtout c'est dans le quartier, oui. Dans le quartier général. Ouais. Enfin, dans le quartier de population générale. Ouais. Je n'ai pas l'équivalent du terme en français, puis je m'en branle.
En gros, il est pas dans les, quartiers. En fait, il est pas envoyé au quartier sécurisé comme on aurait pu s'y attendre.
Oui, non, mais enfin, ça me rappelle des épisodes donc de Daredevil où, enfin voilà, Matt Murdock était foutu en tôle, il était un petit peu dans la même situation et un petit peu dans le caca. C'est pas mal, voilà, c'est bien écrit, c'est sympa. Ça avance pas énormément cet épisode. En même temps, voilà, c'est un épisode un petit peu de réaction suite aux événements. Bon, c'est sans plus, voilà. Je vous laisse vous exprimer, du coup.
Ouais, oui, vas-y Flo.
Ouais, c'est vrai que ça avance pas, ça avance un peu moins vite que les trois premiers, effectivement. Ceci dit, on va voir quand même certaines choses, Batman et ce fameux Falcon. Hein, c'est un petit peu avancé là-dessus. L'histoire de Stephanie Brown avance un petit peu. Voilà, chaque pan avance un petit peu en parallèle, mais juste un petit peu dans ce numéro. Donc c'est ce que j'ai trouvé un petit peu.
C'est un weekly quoi. Enfin.
Oui, c'est
sûr.
Il
y a 50 histoires à suivre et il faut qu'elles avancent toutes en même temps. Donc,
c'est un peu le Game of Thrones de DC, en fait.
Ah, non, c'est pas bête comme comparaison. C'est pas bête.
Une comparaison que Benny va adorer, évidemment.
Non, mais du point de vue de la construction.
Je suis pas forcément d'accord parce que tout ressemble à Game of Thrones dans ce cas-là. Quoi.
Non, dans la construction. Non, moi je vais dire dans la construction, tu vois.
Dans la construction, il y a plein de séries qui sont construites comme ça. Faut arrêter avec Game of Thrones. Enfin, ça devient même ridicule, quoi. Non, clairement, c'est le propre du serial, quoi. C'est voilà.
Bon, en tout cas, le fait que ça soit un weekly, ça passe beaucoup mieux, évidemment. Le fait qu'on voit toutes ces choses en parallèle qui avancent doucement, moi, ça, c'est pas vraiment un défaut, hein, pour moi. C'est juste que effectivement, on a encore plus envie de. Heureusement qu'il y a qu'une semaine à attendre, quoi, pour moi.
Justement, je pense que c'est parce qu'il y a qu'une semaine à attendre qu'ils peuvent se permettre ce genre de storytelling et ce genre de petits écarts, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Parce que ça ne passerait pas clairement dans un mensuel, donc évidemment, là, ils peuvent changer leur façon de raconter l'histoire.
Ouais, c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir quand même quand le scénar va tourner, le scénariste va tourner, parce qu'on nous a quand même promis aussi qu'on allait se focusser sur certains arcs. Donc ça, c'est la fin plus ou moins du premier arc. On va se focusser sur d'autres pans et du coup suivre un fil rouge. Voilà, avec plus d'importance dans l'arc suivant. Voilà, j'ai quand même hâte qu'on se précise à ce niveau-là, quoi.
Il y a des petits éléments qui sont, on va dire, plus ou moins cachés dans le dessin, notamment lors de cette confrontation entre Bard et le nouveau commissaire. On voit un Bullock qui jette un petit coup d'œil et on sent tout de suite que Bullock va le prendre sous son aile.
Mmh, ouais. Ouais,
c'est vrai. C'est pas grand chose, c'est discret, mais c'est bien fait.
C'est vrai.
Par rapport à vous, je serais beaucoup plus enjoué parce que honnêtement, j'ai failli faire de ce numéro mon coup de cœur de la semaine en fait.
Moi je le suis, hein. Moi je le suis, franchement.
Oui, enfin, que Flo et Bunny, parce que finalement j'ai choisi Wii Wars pour donner un petit coup de pouce à la série, pour pousser les gens à la lire. Mais franchement, je suis plus les numéros avancent, plus je suis fan de Batman Eternal. J'y trouve vraiment, ça répond vraiment à mes attentes sur le titre. C'est une exploration de la Bat Family et des policiers de Gotham, de l'univers de Gotham, qui vraiment me passionne. J'adore ça. En plus, le dessin, j'étais pas un très grand fan de John Fabok, alors que là, vraiment, j'ai oublié, c'est Dustin Nguyen, voilà. Je trouve qu'il est vraiment, j'aime beaucoup son style, notamment son Falcon, qui a des petits airs de Falcon façon Tim Sale. Je sais pas si vous avez pensé à
la même chose. Mais complètement.
Ah ouais.
Il y a des jeux avec les ombres, etc. Enfin, c'est.
Ouais, voilà, enfin, moi, franchement, je la conseille, cette série. Si à toute personne fan de Batman, bon, après, quelqu'un qui débute sera un peu paumé, voire même complètement paumé, mais autrement, si vous aimez Batman, pour l'instant, c'est très bon. On verra sur la durée.
Moi, je la conseille plutôt, justement, aux gens qui débutent, parce que, j'ai l'impression de revoir un petit peu pas mal de choses que j'ai déjà lues sur Batman précédemment, en moins bien, je sais pas.
Non, voilà. C'est la remise à jour New 52 aussi. C'est un peu ça peut être un problème si on connaît les vieilles histoires, c'est sûr.
Moi, je continue à lui laisser sa chance et à aller voir où il va m'amener jusqu'au moment où j'en aurai marre. Mais en tout cas, pour le moment, je suis séduit, quoi.
Ah oui, non, mais ouais. J'avais l'air d'être moins séduit, mais je le suis vraiment. Hein. Je le suis vraiment. Vous inquiétez pas. Non, ça avance quand même et. Les personnages sont bien, c'est vachement intéressant de s'intéresser aux flics. Hein, voilà, c'est vraiment un des points forts de la série pour moi. Donc vraiment toujours très bien, quoi.
Puis j'ai hâte de découvrir le compagnon de cellule de Jim Gordon.
Ouais.
Qui a un look et qui a très, très intéressant, je trouve, déjà, rien qu'au niveau du look. Puis je sais pas. Il a l'air d'en avoir plus que ce que l'on voit là.
Alors, Gordon n'est pas placé là par hasard, je pense.
Ah ben ça rajoute, en plus, ça rajoute effectivement encore un autre plot à développer. Gordon en tôle. C'est encore un autre truc à développer dans la série, donc c'est intéressant.
Et j'avais une petite question, juste rapidement, la directrice de Blackgate, c'est un nouveau personnage ou on la connaît ?
Honnêtement, j'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'on la connaît. Elle doit avoir des liens avec l'ancien univers, hein, puisque de toute façon, la continuité Batman, New 52, ça a pas vraiment changé. J'ai pas fait mes recherches parce que je l'ai lu pas longtemps dans cette émission.
Ok, bah, j'ai cherché, j'ai rien trouvé.
C'est comme Jason Bard, au fait.
Oui.
Qui effectivement me disait quelque chose et qui existait, quoi.
Donc pour moi, gros bail.
Ouais, pareil.
Pareil.
Check it pour moi.
On termine nos reviews d'essai avec la sortie de troisième annual de Flash, Marty.
Ouais, donc voilà, Flash qui arrive à avoir trois annuals en même pas trois ans, c'est assez fort. Je pense que c'est lui qui a le record pour l'instant dans le New 52.
Bah, alors, on est quasiment dans la troisième année, hein, à partir du mois de septembre.
Ouais, c'est vrai. Donc, alors un numéro, encore, je vais à nouveau reviewer un numéro qui se passe en deux temps, puisqu'on a d'un côté le Flash présent, et de l'autre le Flash du futur, ce fameux Flash bleu qu'on voit sur la couverture. Je vous spoil rien, on le voit dès le début, et ça a été dit, c'est même dit dans la sollicitation, il me semble. Alors les fans de continuité et les gens qui détestent les ajouts, les modifications de les comics à cause de ce qu'on peut voir dans les adaptations télé et ciné vont hurler, je pense, par rapport à un personnage qui apparaît enfin ici. Je vous laisse deviner qui c'est.
Bah, c'est le fameux Wally West, on peut le dire. De toute façon, ça a été teasé partout et vous êtes sûrement même déjà au courant des changements apportés sur ce personnage, si vous suivez un peu les news.
Non, ouais, il revient.
Enfin, oui, il est de retour. Et donc un Wally West très changé parce que il n'a absolument plus le même âge que Dick Grayson, Arsenal et compagnie. Il est beaucoup plus jeune. Il a 12 ans si je dis pas de bêtises ici. Et surtout, il est maintenant afro-américain, comme il le sera dans la série The Flash, qui est actuellement développée pour la CW. Donc dans le présent, on voit Barry Allen faire connaissance avec ce Wally West. Enfin, il fait très rapidement sa connaissance. Tandis que
dans Flash, c'est bien.
Oui, c'est vrai que le numéro se lit d'ailleurs assez rapidement, malgré son nombre élevé de pages. Et dans le futur, Flash, dans ce nouveau costume, va aller confronter Gorilla Grodd, qui a énormément changé. C'est vraiment un futur qui a l'air absolument pas joyeux du tout. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse découvrir ce qui se passe dans l'annual, même si en fait, il ne se passe pas énormément de choses comme on pourrait le penser. Alors bon, il y a sans doute des choses qui m'ont échappé parce que Flash, j'ai rien lu depuis le premier numéro de New 52. J'ai vraiment pris cet annual comme un point d'entrée. D'autant que j'étais curieux de voir comment serait traité Wally West. Et
surtout qu'en plus, on vient de changer d'équipe créative. Hein. C'est Robert Venditti et Van Jensen qui écrivent maintenant.
Ah, exactement. Oui, je me rends compte que j'ai oublié les crédits. Oui, Robert Venditti et Van Jensen avec Ron Frenz pour les dessins dans le présent et Brett Booth pour les dessins dans le futur. Et donc voilà, ça plaira sans doute aux fans de Flash. C'est clairement un numéro à prendre si on lit la série. Autrement, on sera un peu largué et on n'aura pas vraiment d'intérêt.
Un numéro que je n'ai pas encore eu le temps de lire, hein, pour ma part, que j'ai pris, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire, puisque je n'ai pas non plus encore lu le 30, qui était le premier épisode de Venditti et Jensen.
Oui. Donc voilà, ce sera pour moi un check-it.
C'est tout donc pour les reviews de DC. On termine avec les TP chez DC. On commence avec un TP qui n'est donc pas chez DC mais chez Vertigo. C'est la ressortie de Flex Mentallo pour ceux qui auraient envie de découvrir cette série de Grant Morrison et Frank Whiteley au prix de $15. Hein. Vieille série hein, qui date du début des années 90 mais excellente.
Oui, c'est indispensable.
Suicide Squad TPB volume 4, puisque c'est une série qui ne sort pas en français, c'est au prix de $15 avec les épisodes 20 à 23 ainsi que le Justice League of America 7.1 et le Detective Comics 23.2. Donc c'était des one-shots hein, centrés sur les vilains, notamment sur Deadshot et Harley Quinn, tous deux membres de Suicide Squad. Enfin, nous avons la ressortie, encore une fois, de Superman Batman, mais l'ancienne version par Jeff Loeb et Ed McGuinness, dans une édition assez grosse, un TP au prix de $20 qui va reprendre les 13 premiers épisodes.
C'était très bon, c'était très fun. Très.
Vous en avez eu des adaptations d'ailleurs de deux de ces arcs dans les animés DC, notamment il y avait Superman Batman et puis celui avec Supergirl.
À mon avis, vu ce qui sort au ciné prochainement, Urban va pas tarder à nous ressortir ça.
Ouais,
il y a des chances.
Foncez sur cette édition pas chère, parce que je sais qu'il y a un Absolute qui est sorti il y a quelques temps, mais qui était vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'était.
Là, ouais, 13 épisodes pour $20, c'est vraiment pas cher. Puis ça se lit vraiment facilement. C'est du Jeff Loeb, donc oui, effectivement, ça se lit facilement. Et du Ed McGuinness au dessin. Et non, franchement, c'est de très bonnes factures. On est loin du Jeff Loeb d'aujourd'hui. Je trouve. C'est un avis perso. Voilà, c'est tout pour les reviews et les TP de la semaine. On vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Et puis, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. N'hésitez pas à aller réécouter toutes les anciennes émissions avec les anciennes reviews que vous auriez pu rater ou si vous avez envie d'avoir un avis sur quelque chose que vous hésitez à prendre, que ce soit sur le site ou sur iTunes. À la semaine prochaine et portez-vous bien.
À bientôt.
Salut les gens. Ciao, n'hésitez pas à bilvezer.